Cet épisode vous est présenté par L'Équipe. Bienvenue à tous. Vous écoutez Je suis Lou, le podcast de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Je suis Lou vous emmène au cœur de la forêt boréale, sur les montagnes et les sentiers de Charlevoix, pour partager des conversations inspirantes avec des athlètes chevronnés. Écouter des conseils d'experts, mais surtout s'enthousiasmer pour les anecdotes les plus folles que seuls les ultras peuvent nous faire vivre. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui nous vous proposons d'échanger autour du matériel obligatoire. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je suis Lou, le balado de l'Ultra Trail Arikana du Canada. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet central pour les coureuses et les coureurs d'ultra, le matériel obligatoire et plus particulièrement le matériel recommandé obligatoire sur les différentes épreuves de l'UTHC. Donc j'ai à mes côtés aujourd'hui Julien Harvey qui est le directeur de course pour les longues distances de l'UTHC. Bonjour Julien.
Bonjour Clémentine.
Quand on dit longue distance, Julien, c'est 125, le 80, le 65 et le 42, c'est ça?
Oui, exactement. Ben, je travaille plus particulièrement sur le 65, le 80 et le 125. Puis pour le reste des parcours, là, je partage la direction de course avec Jonathan Quentin. Bon, parfois, c'est un travail un peu plus solo, parfois, c'est un travail un peu plus d'équipe.
Ok, super. Et puis notre deuxième invitée est une coureuse d'ultra, une ancienne triathlète qui est engagée cette année sur le 125 de l'UTHC, c'est Joannie Desroches. Bonjour Joannie.
Bonjour Clémentine, merci de l'invitation.
Ben, merci à toi d'avoir accepté. Joannie, je pense que tu es aussi également ambassadrice de L'Équipe, si je le prononce bien comme il faut, qui est une marque de bâton, donc on va sûrement en parler pas mal pendant l'épisode, tu vas pouvoir nous donner plein d'infos sur les bâtons.
Oui, effectivement.
Bon, super. Alors, pour démarrer, on va faire peut-être une petite mise en contexte. Parce que c'est un sujet qui fait quand même beaucoup parler, le matériel obligatoire. Il y a eu pas mal de débats entre les adeptes d'une pratique peut-être plus libre de l'ultra qui reposerait plus sur la responsabilisation des coureurs, on va dire, versus des organisateurs de courses qui, eux, se doivent finalement de protéger aussi un petit peu les coureurs. Donc, les listes de matériel obligatoire, on va pas faire un grand historique, mais elles existent quand même depuis pas mal d'années. Je pense depuis le début de l'UTHC, Julien, il y avait quand même une liste de matériel au moins peut-être recommandé dans le guide du coureur.
Oui, exactement. On a toujours eu du matériel obligatoire. Puis cette liste-là de matériel, elle va évoluer d'année en année. Bon, parfois, elle évolue parce qu'on vit certaines situations, parfois parce qu'on est sensibilisé à différents enjeux de sécurité qui peuvent survenir par la collaboration avec d'autres courses, l'adhésion à des organismes internationaux, etc. Donc oui, c'est une liste qui est en constante évolution. Puis les technologies aussi vont changer au niveau du matériel que les coureurs peuvent transporter lors de leurs épreuves. Donc on essaie d'être à l'écoute de ces évolutions-là puis d'adapter nos listes pour qu'elles soient bien à jour.
Donc c'est une liste qu'on peut retrouver actuellement. On est au mois de juin 2023, donc on n'a pas encore la version 2023 qui est disponible, mais les coureurs peuvent quand même aller sur le site de l'UTHC pour regarder la liste 2022 qui donne quand même une bonne idée de ce qui est obligatoire. Et donc c'est classé en fait pour chacune des courses, donc du 125 jusqu'aux 5 km, il y a toute une liste en fait, et on a à la fois du matériel obligatoire, donc on va le regarder ensemble, on a du matériel qui est recommandé, on a du matériel qui est permis, et on a du matériel aussi qui est interdit, donc ça on pourra regarder ensemble aussi, peut-être aussi les différences entre obligatoire versus recommandé, mais moi ce que je vous propose, ouais, c'est ça, c'est qu'on le regarde ensemble, puis qu'on discute un peu comment ça a été créé, et pourquoi c'est recommandé en fait aux coureurs. Donc le premier, moi, que je vois, là j'ai la liste sous les yeux, c'est la réserve d'eau avec une capacité minimum de 1 litre, donc ça c'est obligatoire sur les 4 longues distances. Moi, ma première question, je vais faire la personne qui est un peu novice, on va dire, comment on fixe justement le 1 litre, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, sur quoi on se base en fait pour évaluer cette quantité-là?
Je peux peut-être prendre la balle au bon, Clémentine et Joannie. Ben, tu sais, ce que je trouve intéressant là, de mettre en contexte par rapport à l'ensemble du matériel obligatoire, c'est de rappeler un peu pourquoi c'est comme organisation, on va mettre ça de l'avant. T'sais, avant, mettons, de s'attarder à chacun des systèmes, il faut comprendre aussi que Bon, on a tendance à l'oublier, mais on est un sport où on va amener les gens à courir en nature. Donc, on va être dans des environnements qui sont vraiment variés selon les lieux de course et notre pratique sportive. Par exemple, courir dans Charlevoix au mois de septembre, c'est pas la même chose non plus que courir, je sais pas, en Estrie au mois de juillet. On va avoir des environnements extrêmement variés et donc avec des conditions météo aussi qui sont très variées. La grande particularité, je trouve, de l'UTHC, c'est qu'il peut faire 25 degrés, c'est en après-midi. Je sais pas, par exemple, quand on lance le départ du 125 le vendredi après-midi, faire 25 degrés, gros soleil. Donc, on a tendance à penser qu'on va avoir un contexte de course qui va être chaud et donc à y aller peut-être de manière plus puriste. Il ne faut pas se rater 12 heures plus tard lorsqu'on tombe au milieu de la nuit, au sommet des Morios ou de la Noyer, ou etc. Il peut carrément faire autour de 0 degré et neiger. Donc, il y a tout ce rappel-là qui est important, le contexte de course. Puis chaque organisation, je pense, a aussi son milieu naturel qui est différent. Donc, chacun va adapter un peu son matériel obligatoire en fonction de tout
Son
ça.
matériel en fonction de, ouais, de la saison. Et puis j'imagine aussi que, mais ça on pourra peut-être en parler plus tard, mais selon aussi le moment en fait, c'est-à-dire que tu peux te retrouver justement avec un mois de septembre très chaud ou le contraire avec des températures plus froides, vous allez peut-être rajouter ou enlever, je ne sais pas, mais peut-être rajouter des choses en plus en fonction du contexte météo. Je veux dire un peu en dernière minute, on peut ajouter des choses en fait, ou
Ouais,
plus
on
d'eau.
va. Ouais, c'est ça, on pourra en reparler, mais oui, c'est arrivé l'année passée, là, je pourrais en reparler. Puis, faut aussi se rappeler, tu sais, nous, on lance les. Quand on va courir tout seul ou avec un partenaire, tu sais, puis on n'est pas dans un contexte de course, souvent, on va avoir tendance à être plus prévoyant parce qu'on s'en va dans le bois. Le but, c'est de s'éloigner un petit peu aussi de la civilisation. Fait qu'il faut être en mesure d'être autonome. Dans un contexte de course, souvent, les gens pensent que l'organisation va pallier à notre autonomie en fournissant l'ensemble des choses nécessaires à notre course. Puis, autrement dit, si on est mal pris, si notre course passe pas comme prévu, je sais pas, moi, par rapport à une blessure, on prend plus de temps, on a un bris d'équipement, ben, il faut aussi se rappeler qu'il faut être prêt à s'adapter comme coureur, pour simplement être en mesure de compléter sa course, de continuer, de pas se retrouver dans le pétrin. T'sais, il peut y avoir à la fois des enjeux de coup de chaleur, mais de l'autre côté du spectre, des enjeux d'hypothermie. Donc, t'sais, sur les 3 000 coureurs, là, sur nos différents parcours, on en a vu de toutes les couleurs. Puis le principe, on voit un peu le fil directeur, c'est de notre philosophie lorsqu'on réfléchit au matériel obligatoire, ben c'est la semi-autonomie. Donc oui, on a conscience qu'il y a des points de ravitaillement sur les parcours qui vont aider les coureurs au niveau nutritionnel, les équipes médicales, mais le coureur ne doit pas partir avec la prémisse que c'est l'organisation qui va le dépanner ou la dépanner s'il arrive quelque chose. T'sais, idéalement, on part dans un principe où on est autonome. Mais on a des stations de ravitaillement et des intervenants qui peuvent nous aider en cas de pépin. Donc, c'est un peu sur ce. On jongle tout le temps un tout petit peu entre cette nécessité-là d'être autonome et puis d'un autre côté, ben, ne pas trop ajouter de matériel parce qu'on sait que plus on rajoute de poids, plus ça devient un inconfort pour le coureur, ça nuit aux performances. Donc, on veut toujours trouver cet équilibre-là, dans la façon dont on réfléchit aux listes de matériel obligatoire.
Ok, d'accord, ouais, on comprend. En fait, il faut à la fois ben, responsabiliser les gens, leur dire qu'il faut qu'ils soient quand même semi-autonomes, tout en quand même les encadrant un petit peu, justement en leur fournissant ces listes-là, puis en obligeant finalement un certain type de matériel, vous les encadrez aussi un petit peu pour les gens qui ont peut-être aussi moins l'habitude. Ok. Puis est-ce que justement ces listes-là vous discutez entre organisateurs de d'autres courses au Québec ou ailleurs dans le monde pour voir justement qu'est-ce qu'on met, comment on décide en fait
Oui.
de ce qu'on met là, parce que c'est sûr qu'on commence avec le premier item qu'on voit, c'est la réserve d'eau. Donc ça, on imagine que tout le monde y pense qu'il faut partir avec de l'eau. Mais pourquoi le minimum d'un litre? Est-ce que tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu la norme dans les courses d'ultra
Oui, c'est un peu la norme, mais en même temps, c'est souvent on voit des organisations qui recommandent pas un volume là, minimal, un volume plancher. Par contre, nous, on trouve ça bien parce que, bon, il y a toujours entre, je dirais, 8 et 15 km entre 2 points de ravitaillement. On calcule un petit peu ce volume-là d'eau nécessaire qui est consommé. Puis, c'est drôle, tu parlais en introduction du fait est-ce que vous adaptez vos listes. Ben, l'année passée, c'est nous, on a envoyé des groupes de communication avant la course de septembre parce qu'on voyait qu'il faisait extrêmement chaud, anormalement chaud, en fait, pour la période de l'année. Puis, on a recommandé, là, d'ajouter, là, un demi-litre en fait par coureur. Puis effectivement, les retours qu'on a eu des différentes courses, pas juste les longues distances, mais même les courtes distances, c'était que les coureurs avaient manqué d'eau. On a même rajouté un point d'eau là sur le parcours. Donc voilà, on s'adapte, mais oui, on s'inspire des autres organisations. Puis beaucoup des feedbacks et des commentaires qu'on reçoit là, après les courses, c'est ce qu'on constate sur le terrain.
Ouais. Ensuite, il y a tout ce qui est réserve alimentaire. Alors là, c'est moi qui, encore une fois, je vais jouer la novice. Mais si j'arrive, je m'inscris à la course, puis je vois écrit en fait réserve alimentaire, barre énergétique, gel et autres. Je me dis, ok, mais combien il faut que je prenne, quoi? Si t'as pas trop l'habitude, est-ce que j'emporte toute ma nourriture avec moi, sachant qu'il y a des ravitaux, ou est-ce que j'en prends pas beaucoup, puis je vais faire confiance à la nourriture qu'il y a sur les ravitaux. Ça, Joanie, d'ailleurs, tu pourras nous dire comment toi tu t'organises. Est-ce que tu prends ta propre nourriture? Est-ce que tu prends les ravitaux? Est-ce qu'on peut un peu conseiller les gens sur la quantité qu'il faut prendre, ou ça, c'est tellement variable d'une personne à l'autre?
Ben en fait, c'est très variable pour l'eau et pour la réserve alimentaire. Là, moi, mon petit truc que je fais, c'est que je me fais un fichier Excel avec les distances entre les ravitaillements, pardon, puis le temps que ça peut prendre. Donc, je fais trois colonnes, un temps optimiste, un temps réaliste et un temps, j'appelle ça, possible. Ça, c'est si ça va mal, en fait. Puis j'y vais vraiment, la colonne possible, j'y vais vraiment pessimiste, là, si ça va mal, puis je dois marcher tout le long parce que je veux un peu me préparer au pire. Donc, j'estime le temps, un range de temps entre les ravitaillements, puis là, j'estime qu'est-ce que ça va me prendre comme nourriture entre les ravitaillements. Oui, je me fie au ravito pour quelques trucs. Donc, je vais regarder la liste de la nourriture qu'il y a dans les ravitaillements. Je vais dire, OK, là, je vais prendre des bananes, des gofnacs, etc. Mais je vais essayer d'être complètement autonome entre les ravitaillements.
Ok. Donc, il y a à peu près combien, sur le 125, par exemple, Julien, il y a combien de distance entre chaque ravitaillement, à peu près?
Ben, c'est variable, tu sais, c'est entre 8 et 15 km environ. Je pense que c'est sur le 42 Saint-Siméon, là, où on a les plus longues distances là, entre deux ravitaux, mais normalement, là, on est autour de 10 à 15 km. Fait que je pense que c'est à chaque coureur à bien se connaître. C'est aussi un autre élément, là, tu sais, des fois, sur les longues distances, les gens vont vers des distances plus longues pour la première fois. Fait que les gens, des fois, ne se connaissent même pas eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils vont réagir entre... C'est après 50 km de course, 60, 70, 80. Et puis, je pense qu'un des éléments fondamentaux, c'est que les gens se connaissent. Puis on fait tout un peu du trail aussi pour apprendre à se connaître. Je pense que ça fait partie de l'évolution. Nous, comme organisation de course, ben, on fait des menus qu'on va placer dans chaque poste de ravitaillement en fonction du nombre de coureurs. C'est essentiellement la logique, c'est de ne pas manquer de bouffe pour personne. C'est d'avoir de la variété, c'est d'avoir des saveurs. Ça va être différent, de la bouffe plus générique comme, je sais pas, des fruits, mais de la bouffe aussi un peu plus spécifique en lien avec les électrolytes. Après, tu sais, moi, je sais personnellement, comme coureur, j'aime bien être autonome dans tout ce qui est spécifique aux électrolytes. T'sais, moi, j'ai une montre, puis je me mets une alarme sur les longues distances à chaque 30 minutes pour manger, parce que je le sais que sinon, je vais tomber en hypo. Fait que, ça, c'est des trucs personnels, comme Joanie nous partageait, tu sais, chaque coureur a ses trucs. L'organisation, de son côté, elle, va venir plus fournir, je pense, un large buffet sur lequel on peut se servir, puis ça peut pallier aussi à notre alimentation.
Ce que je trouvais intéressant dans ce que disait Joanie, puis que je pense que tout le monde peut s'en inspirer, c'est qu'elle prévoyait trois paces différents. Puis ça, des fois, c'est justement, on en a déjà entendu parler, mais des coureurs peut-être qui sont un peu plus élites, qui eux vont peut-être remettre en cause certains items de la liste parce qu'ils vont aller plus vite et qui se disent qu'ils n'auront peut-être pas besoin de tous les items. Mais il faut prévoir que même si on court à la base vite ou qu'on est plus élite, on peut avoir un coup de moins bien, et justement, c'est important de le prévoir, et puis de prévoir un peu pallier à toutes les éventualités, parce que comme tu le dis, ça reste quand même de la semi-autonomie. Donc,
Exact. Puis moi, un des trucs que j'utilise, c'est que, mettons, la capacité minimum 1 litre, OK, je vais prévoir 1 litre, mais je vais mettre une flasque vide dans le dos de mon sac à dos. Comme ça, si ça va moins bien, je me suis foulé une cheville, je dois marcher ou quoi que ce soit. Mais là, je vais peut-être remplir 3 flasques au lieu de 2. Il faut juste prévoir un peu les imprévus, là.
Ok, et ça, c'est des choses que tu prévoyais dès le début, ou c'est parce qu'il t'est arrivé des anecdotes ou un peu moins, où tu t'es retrouvée justement en manque de nourriture ou en manque d'eau ou,
Ouais, je me suis déjà souvent retrouvée en manque d'eau, là. Souvent, des fois, les distances entre les ravitaillements ne sont pas nécessairement exactes non plus, là, sans vouloir reprocher rien aux organisateurs, mais ça m'est déjà arrivé d'être dans des courses et de penser que les ravitaillements est dans 500 mètres, mais finalement, il était dans 2,5 km. Fait que quand tu vas pas vite, ça peut quand même faire une bonne différence, là. Fait que moi, j'aime mieux personnellement traîner un peu plus et à être safe au niveau de l'eau et de la nourriture, même si ça pèse plus lourd.
Ouais, OK.
Moi, c'est de la musique à mes oreilles, ce que dit Joanie. Parce que, tu sais, faut aussi. Puis j'adorais son idée de colonne. Je pense que ça appelle ça la colonne des possibles.
Oui.
C'est très bien dit, c'est super positif. Et tu sais, dans cette colonne-là, il y a d'autres embranchements. Tu sais, il y a l'embranchement je vais me perdre sur un parcours. Tu sais, on voit des coureurs qui se perdent, même des coureurs élites. C'est ça qui est intéressant dans la réflexion. C'est que des fois, je trouve que les gens ne se sentent pas concernés par le matériel obligatoire. Fait que, on peut dire, ah, moi, je suis dans les athlètes élites et je vais aller vite, j'ai moins besoin de ça. Mais, ça nous est arrivé l'année passée d'avoir, chez les femmes, une athlète élite qui s'est perdue. Fait que, quand tu perds là, ton scénario de course, il change drastiquement. Tu sais pas combien de temps tu vas être perdu. Dans ce cas-ci, en plus, c'était la nuit. Fait que, faut que tu aies de la batterie pour tes lampes frontales suffisamment. Tu vas probablement être amené à mettre une petite couche supplémentaire parce que là, en train de te réorienter, t'es pas en train de courir, donc tu perds ta chaleur plus vite. Fait que ça, c'est un des scénarios. L'autre scénario, c'est aussi qu'on oublie des fois, c'est avoir la capacité de porter assistance à un coureur qui vit un pépin sur le parcours. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Joanie, mais nous, ça arrive fréquemment que si c'est un coureur un pépin, là, c'est le coureur qui le suit, qui va être en mesure de le supporter. Donc, c'est aussi par bienveillance envers les autres participants là, qu'on peut faire bénéficier ce matériel-là obligatoire.
Ben moi, c'est plus en tant que support, que pacer que ça m'est arrivé. Ça allait pas bien pour la coureuse que je paissais, donc j'ai été vraiment plus lentement que je pensais, mais j'étais très contente d'avoir amené une couche de plus, un imperméable, puis j'aurais presque dû apporter des pantalons longs, là. Et oui, c'est très surprenant, Charlevoix. Les montagnes de Charlevoix en septembre, ça peut être très froid la nuit.
Ouais, la température peut vite baisser. Puis là, on en vient justement ensuite à toute la liste un peu. Alors, c'est sûr qu'en lien avec sur la partie plus nourriture, eau, il y a le gobelet parce que maintenant, il n'y a plus du tout de vaisselle hein, sur les ravitaux. Donc, les coureurs doivent avoir avec eux un gobelet ou un contenant pour pouvoir mettre de l'eau, mettre une soupe. Là, ça peut être aussi, il y a des petits bols qui sont rétractables. J'ai même vu sur Internet qu'il y en a qui se fabriquaient eux-mêmes leur petit gobelet avec un carton pour pas que ça tienne trop de place, puis qui voulait pas acheter le. Enfin, c'est rigolo, il y en a qui sont astucieux. Mais après, si on en vient plus avec la sécurité, justement liée au fait d'être en région quand même un peu isolée, on a le téléphone cellulaire. Alors là, ça peut. On peut se poser la question, pourquoi un téléphone cellulaire alors qu'il y a très très peu de réseau sur le parcours de la course?
Oui, ben, le téléphone cellulaire, en fait, c'est. Bon, l'objectif principal, c'est d'être c'est un outil de communication. On peut pas exiger que les coureurs aient des radios, tout le monde, ça serait ingérable, c'est impossible. Mais tu sais, Charlevoix, là, en général, c'est une région qui est éloignée. Puis, effectivement, il y a des zones où on a de la communication, des zones où on en a moins. Par contre, l'élément principal, je pense, avec le téléphone, c'est l'application Ondago. Donc, tout ce qui est acheté, au niveau des cartes, on est desservi par une application, donc Ondago, et puis là, il faut télécharger la carte là, de l'UTHC. Une fois que c'est fait, bien, même si on est hors réseau, on est en mesure de se localiser sur l'ensemble de nos parcours qui sont géoréférencés. Donc, autrement dit, l'utilité de ça, c'est j'ai mon téléphone cellulaire qui peut être en mode avion. S'il m'arrive quelque chose, si je rencontre un blessé, j'ai besoin d'avoir sa borne kilométrique. Si je m'écarte du parcours, ben, je peux me géolocaliser en tout temps. Donc, ça me permet d'abord de communiquer ma position ou de savoir, en orientant le GPS qui fonctionne quand même sur le téléphone, comment réintégrer le parcours. Donc, c'est un élément qui est sécurisant pour les coureurs. On y pense pas avant, mais une fois dans le milieu du bois où tu sais pas t'es où, ça peut être vraiment inquiétant. Puis c'est une raison de sécurité, de simplement. C'est pas rare aussi qu'on va arriver à capter du réseau sur les parcours. Donc, en cas de besoin, on n'est pas assuré à 100% pour pouvoir communiquer, mais souvent, on peut le faire.
OK. Donc, c'est en lien avec, effectivement, la carte du parcours qui est aussi dans le matériel obligatoire et qu'on peut télécharger sur son téléphone.
Ouais, ben, Oui, c'est pratique de traîner une carte papier, mais la carte
Ben
électronique,
oui.
elle est fun parce qu'on peut se géoréférencier en tout temps, savoir où on est par rapport au parcours. Donc, ça peut être très pratique.
Moi, je l'ai personnellement utilisé la carte parce que je ne savais pas où j'étais.
Ah!
J'étais hors parcours et ça m'a aidé à retrouver le parcours. Donc, oui, c'est très utile.
Oui, tu t'étais perdu, puis tu as réussi à te retrouver. Ouais.
Ouais,
Ouais.
ben, perdu de pas gros, là, mais moi, je regarde toujours s'il y a des flags. Donc, je ne voyais pas de flags. Effectivement, j'avais perdu le parcours. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits où est-ce que c'est très bien balisé, là, mais il y a des endroits où c'est facile de pas prendre le bon sentier.
Oui. Puis un petit moment où tu es un peu moins attentif ou tu es un peu plus fatigué.
La
Ben
nuit,
ça,
oui.
ouais, la nuit en plus. Hein. OK. On a la couverture de survie aussi avec des dimensions bien précises de minimum 1,40 m sur 2 m. Donc ça, la couverture de survie, je sais que ça fait discuter.
Ouais, j'ai une belle anecdote avec ça. On a souvent, tu sais, avec le matériel obligatoire, on essaie un peu de changer la culture là, par rapport aux coureurs, là, c'est ceux qui veulent partir le plus light possible, le plus léger possible. Quand Joanie, elle me dit tel item m'a été utile, moi je suis super content parce que moi je vois ça comme des éléments de réussite aussi pour une épreuve, pour un athlète. Puis le cas de la couverture de survie, là, ça a l'air banal, mais pourquoi la dimension est là? C'est parce qu'à un moment donné, on a eu un athlète qui a dû abandonner sa course, donc un DNF. Et puis, quand les secouristes l'ont récupéré sur le parcours, ben il y avait une couverture de survie, mais ils se sont rendus compte qu'elle était petite. En fait, ce que la personne avait fait, c'est qu'elle avait coupé sa couverture de survie pour sauver du poids ou du volume, là, pendant qu'elle était juste dans son sac. Et c'est une couverture de survie, là, ça a l'air banal, mais c'est quand même très petit. Et les gens vont jusque-là, des fois, dans la logique d'enlever du poids. La personne a eu besoin de sa couverture, puis elle n'était pas en mesure d'avoir l'effet bénéfique, tu sais, de se couvrir là, simplement, puis d'avoir l'effet de radiation de chaleur. Fait que là, tu sais, je trouve ça bête parce que là, cette personne-là s'est mise à risque, c'est d'hypothermie probablement et tout ça, pour sauver quoi? 8 grammes dans son sac et très peu de volume. Fait que des fois, on va voir des petits éléments qui attirent l'œil comme une dimension, ben ça vient de là, c'est que des fois les gens vont jouer sur les mots pour sauver un petit peu de poids, mais finalement, ben, l'item est là pour quelque chose qu'on veut qu'il puisse remplir son rôle là, quand on en a besoin.
Mais c'est intéressant de penser,
Cette anecdote là
ouais. Puis
qui.
ça peut t'aider aussi, ce que disait Joanie aussi. Toi, c'est en tant que pacer, mais ça peut t'aider aussi peut-être à aider une autre personne qui se sent pas bien. Et puis avec ta couverture, tu vas
C'est
pouvoir
ça.
aussi.
Ça me fait penser à l'imperméable avec capuche. Pourquoi il y a le avec capuche? Parce que ben s'il pleut. S'il tombe les clous, ben là, ça prend quelque chose pour imperméabiliser la tête par où on perd beaucoup de chaleur. Puis la tuque, ben oui, ça garde la chaleur, mais s'il pleut en plein milieu du bois, ben ça joue pas le même rôle. Fait que, des fois, c'est des petits ajouts qu'on a fait avec le temps par rapport à des expériences vécues qui, je pense, amènent plus de sécurité pour les coureurs.
Mais dans les vêtements, justement, vous avez l'imperméable à capuche, vous avez la tuque, le bonnet, les gants, une sous-couche avec des manches longues, mais vous n'avez pas forcément de jambes, enfin de pantalon long, en fait, qui est obligatoire.
Exactement. Les pantalons quand même écoubants, on va les recommander.
La veste imperméable, elle est,
Après,
veste perméable, elle est obligatoire sur le 125, le 80 et le 65.
ah, exact. Les pantalons, je pense que c'est recommandé pour le 80 ou le 125. Fait que, après, c'est des choix, là. On regarde un petit peu les tendances, les habitudes de coureurs. T'sais, on essaie de voir un peu en situation d'urgence qu'est-ce qui est prioritaire. Fait que voilà, fait que, les listes servent, oui, à donner un standard, mais c'est aussi de l'éducation pour attirer l'œil des coureurs en leur faisant réfléchir sur l'item. Peut-être qu'ils en auraient besoin. Fait que, des fois, il y a des choses qu'on juge non essentielles, c'est comme les pantalons, mais on va les recommander parce qu'on sait que ça peut être utile sur des longues distances.
Oui, c'est ça la différence entre. Pardon, excuse-moi, Joanie,
Ce que
vas-y.
je recommanderais au moins les pantalons, c'est de les mettre au moins dans le drop bag à mi-course, au haut de gorge, comme ça. Si tu arrives là pendant la nuit, si tu vois que tu as plus froid que prévu ou que ça va moins bien que prévu, tu vas plus lentement que prévu, ben, tu peux au moins les mettre dans ton sac au cas où.
Oui, ça c'est intéressant. Ça, il y a aussi un drop bag qu'on peut récupérer. On est où à haute gorge? On est à mi-course à peu près.
Nikos,
Ouais.
ouais.
Donc là, tu peux mettre du matériel en plus que tu changes, mettons comme la lampe frontale qui est forcément obligatoire là vu qu'on court de nuit. Là, tu peux mettre une deuxième lampe, je sais pas, ou d'autres batteries si tu veux.
Ouais.
C'est ça le but en fait, hein. Ok. Mais c'est vrai que le dans ce qu'on lit ou dans les discussions qu'on peut entendre, des fois, c'est ça. Les gens trouvent que la liste est longue parce qu'ils disent, bah, tiens, pourquoi je mets une couverture de survie alors que j'ai déjà un pantalon long? Mais tu sais, c'est important, justement, ce que tu disais de se préparer un peu à toutes les éventualités. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors, dans le matériel obligatoire, on a à peu près tout passé. Après, c'est sûr que c'est du matériel recommandé. Donc, comme la trousse de premier soin, elle est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Un bœuf, la cloche à ours est recommandée.
Oui, mais tout à fait. Entraînes-tu, Joannie, des fois des cloches à ours quand tu fais surtout la nuit, je pense? Non.
Non, j'entraîne pas parce que c'est une raison bête, là, mais ça m'énerve le son. Mais c'est parce que moi, j'ai pris l'habitude de faire du bruit quand je cours. Fait que je vais taper dans les mains, crier, chanter, pour être sûre que les ours, ils savent que je suis là. Mais oui, il faut faire du bruit, mais c'est pas nécessairement la cloche à ours le seul moyen de faire du bruit.
Oui, tu peux chanter.
Oui.
Toi, Joannie, dans tout ce qu'on a listé, là, y avait le sifflet dont on n'a pas parlé, qui maintenant est quand même souvent intégré au sac, mais c'est quand même bon de vérifier qu'il soit bien intégré dans votre sac. De quoi tu te passerais, en fait, dans le matériel obligatoire?
De quoi je me passerais?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ne pas transporter dans ton sac?
Non, honnêtement. Non. Même quand je porte toute seule dans le bois, je vais prendre tout ce système-là, d'habitude. Peut-être en plein été, je ne prendrais peut-être pas la tuque puis les gants, là, mais sinon... Je vais souvent prendre même une trousse de premiers soins de base. Juste, mettons, du tape de physio, ça peut sauver la vie là, quand t'as une blessure ou même une ampoule. Traîner des pansements. Puis non, il n'y a rien vraiment dans la liste que je ne prendrais pas.
Oui, est-ce que je ferais du pouce là-dessus? C'est un des systèmes qu'on a ajouté dans les dernières années, la trousse de premiers soins. On remarquait que des athlètes qui la traînaient ou des fois des athlètes qui avaient comme commentaire « Ah, si j'avais une trousse, j'aurais été capable de gérer ma situation sur le moment puis peut-être de continuer. » Tu sais. Des fois, ça fait toute la différence des fois entre une épreuve qu'on va réussir versus un DNF. Sur le 125, on est quand même à... Oui, on est à un peu plus de 50% de réussite, mais là, tu as tout le 40% de gens qui abandonnent. Fait que nous, dans la tête des athlètes, on veut semer l'idée que vous voyez tout le matériel-là comme étant un de vos alliés pour continuer, pour pallier à chaque situation. Quel est l'impact d'avoir une livre ou deux de plus sur le dos versus le bénéfice que ça peut vous apporter?
Oui. Puis la trousse de premier secours, vous aviez remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient pu arrêter parce qu'il leur avait manqué ils auraient pu se soigner eux-mêmes en fait sur des bobos qui, j'imagine, n'étaient pas trop trop graves, mais quand même un petit peu handicapant pour continuer. C'est pour ça que vous l'avez ajouté, Julien?
Oui, exactement. Moi, je pense que l'exemple, c'est surtout un segment. Là, si tu tombes, le genou contre une roche, ça saigne abondamment ou des petites choses comme ça, c'est pratique d'avoir une compresse, un petit désinfectant vite fait, puis pouvoir se faire un pansement. Je sais pas, il y a des gens qui traînent, sans traîner de trousse, mais tu sais, d'avoir un peu d'Advil ou de Tylenol pour faire passer un petit bobo ou quelque chose, ça peut être vraiment pratique aussi. Un anti-allergène, après toute la question de l'épithène, mais ça, c'est plus pour les gens concernés par quelque chose d'énergie sérieuse. Donc voilà, fait que ça, c'est des trucs qu'on développe avec les années, mais ça reste du matériel qui est facultatif.
Qu'est-ce que toi, Joannie, tu as dans ton sac puis qui n'est pas dans la liste?
Ben moi, j'ai des verres de contact de rechange parce que je voudrais pas perdre un verre de contact puis devoir courir en trail sans voir. Qu'est-ce que je traîne aussi qui est pas dans la liste? Ben moi, je traîne des bâtons normalement. Mais en fait, sur le 125, quand j'ai participé, j'avais pas pris mes bâtons et j'ai regretté. Parce que dans le fond, il y a beaucoup d'opinions partagées sur les bâtons. Puis je sais pas si tu veux tout de suite rentrer sur le sujet. Là.
Si, ben oui. Tu me fais une belle transition, c'est parfait. Ouais, les bâtons, en fait, c'est permis, mais c'est pas obligatoire. C'est pas forcément recommandé, mais c'est permis. Du moins sur le 125, le 80, le 65, le 42, mais pas sur les plus courtes distances. Là, ils sont pas autorisés.
Ok, exact.
Alors, ouais, donne-nous un peu ton point de vue par rapport aux bâtons, ouais.
Ouais, ben c'est ça, les opinions sont partagées, puis je pense que ça devient un peu une opinion personnelle, mais normalement, les bâtons sont avantageux quand les pentes sont très abruptes, donc peut-être en haut de 20%. Mais moi, je pense que sur des longues distances, ça va toujours être un avantage s'il y a moindrement du dénivelé parce que ça diminue la charge mécanique sur tes jambes. Puis si tu sais bien les utiliser, et je dis bien si tu sais bien les utiliser et que tu es habitué avec les bâtons, c'est sûr que ça va réduire l'impact sur les jambes, donc réduire la fatigue musculaire. Mais moi, je suis vraiment habituée de courir avec les bâtons. Je me pratique beaucoup avec les bâtons, donc oui, ça peut être un avantage. Mais pour ceux qui sont pas habitués de courir avec des bâtons, je pense que ça peut devenir nuisible. Donc c'est vraiment un choix personnel.
Ouais, il faut pas que tu démarres à utiliser les bâtons le jour de la course. C'est comme en fait tout nouveau matériel. Finalement, il faut que tu t'habitues
Ouais.
à l'utiliser. Est-ce que toi, donc on l'utilise pas tout le long du parcours, toi tu l'utilises plus en montée, plus en descente, est-ce que...
Plus en montée ou même des fois sur le plat quand j'ai vraiment mal aux jambes. Des fois, ça peut aider à garder une certaine cadence. Mais quand je les utilise pas, je les mets dans j'appelle ça un quiver, là, mais c'est un petit sac qui est attaché à ma veste d'hydratation. Donc, je les sens pas du tout, ça brasse pas du tout, puis c'est très confortable.
Ok. Est-ce que Julien, elle a l'impact sur le sol des bâtons? Est-ce que ça peut être embêtant ou finalement il y a tellement de randonneurs qui passent tout au long de l'année sur Charlevoix que juste quelques coureurs du 125, ça c'est pas énorme.
Ben, nous, on a pas noté là, tu sais, que la dégradation des sentiers, c'est un enjeu là, par rapport. C'est là qu'on a un volume important là, tu sais, de coureurs, mais comme tu le dis bien, les randonneurs sont là aussi. Tu sais, juste des souliers de trail, ça produit quand même un peu d'érosion, le fait d'aller vite, de freiner, etc. Non, tu sais, nous, au niveau des bâtons, ben, c'est que je pense que je rejoins un petit peu Joanie lorsqu'elle dit que longue distance, c'est plus approprié. Tu sais, nous, ça, le, no, notre tableau un peu reflète là, cette pensée-là qu'on a, c'est-à-dire que sur les longues distances, c'est du matériel qui est... On l'a pas mis nous recommander, c'est du matériel qui est permis. Fait que, on porte pas de jugement sur le fait de est-ce que vous devriez en avoir ou non. T'sais, comme organisation, c'est très personnel à chaque athlète. Je pense que Joanie a raison, il faut savoir les utiliser pour qu'il y ait un bienfait. Moi, comme coureur, j'adore ça, avoir des bâtons quand il y a du dénivelé, je remarque vraiment un bienfait au niveau des jambes, en montée comme en descente. Mais c'est comme organisation, il y a plus une préoccupation de sécurité sur les courtes distances où là, on a des pelotons de coureurs qui sont plus denses. Là, les bâtons, tu sais, un peu dans l'énervement, là, tu sais, des premiers kilomètres, etc., ça peut devenir une nuisance, voire même un enjeu de sécurité. Là, tu sais, ça a l'air bête, mais tu sais, dépasser un coureur, si le bâton est un peu plus large, tu peux frapper les jambes dedans, tu peux tomber. Fait on trouve que c'est un équipement approprié pour les longues distances où là, les fils de coureurs sont plus distancés. Et puis, mais ça revient à chaque coureur là, à décider si pour lui c'est approprié ou non. Je pense que c'est un peu comme le reste du matériel. Il faut le tester avant, ne pas le faire le jour de la course. pas un élément qui peut sauver. Ben, je pense que c'est un élément qui peut sauver votre course, mais c'est pas un élément miracle dernière minute à intégrer dans sa planification.
Un autre élément, c'est que le fait d'avoir des bâtons dans les mains, des fois, ça peut avoir une influence sur ton apport alimentaire. Donc, ça peut t'empêcher de penser de manger. Donc, il faut juste garder ça en tête quand on s'entraîne et pendant la course, que quand on fait une longue montée, ben, il faut quand même penser à manger, même si on a des bâtons dans les mains.
Ah oui, ok. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais ce que tu disais, Julien, sur la sécurité, c'est pour ça donc que les bâtons sont interdits. En fait, sur les plus courtes distances, c'est parce qu'il y a plus de monde, puis que ça va plus vite et il y a un risque de se blesser ou de se toucher les uns les autres, en fait.
Oui, exactement. Ça fait beaucoup de gens qui sont sur des parcours. Tu sais, quand on parle des plus courtes distances, j'aime pas s'appeler ça courte distance parce qu'il n'y a pas moins de mérite à faire un 20 km que 65, mais il y a définitivement une densité de coureurs un petit peu plus élevée. Puis c'est aussi des coureurs qui sont un peu plus débutants sur ces parcours-là, donc souvent un peu moins habitués à utiliser des systèmes associés à la longue distance. Donc c'est un choix d'organisation là, de pas les autoriser. Ça me fait penser un petit peu aux écouteurs. Je ne sais pas si on pouvait déborder sur l'autre item, mais je serais curieux d'entendre ce rôle-là pour Joanie. T'en utilises-tu, toi, Joanie? C'est quelque chose que tu fais, que c'est de la musique, des podcasts, tout ça, en course ou...
Je le fais en entraînement, pas en course, non. Mais je les ai au cas où, par contre, que je sois dans une très mauvaise passe, je vais mettre de la musique entraînante. Mais surtout dans Charlevoix, là, je veux entendre qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce qui se passe autour dans le bois. Puis je pense que c'est un peu un aspect sécuritaire, là. Je veux pas nécessairement je veux entendre qu'est-ce qui se passe autour. C'est pour ça que je mets pas de musique.
Ah, les écouteurs sont autorisés sur les, sur, je dis encore une fois, sur les plus longues distances, et par contre, ils sont pas autorisés sur les plus courtes. Donc,
Ben,
est-ce
c'est
que,
un peu la
y en a
même
beaucoup?
logique que les bâtons.
Ouais.
Ça se rapproche vraiment comme logique, tu sais, c'est de dire, bon, quand il y a plus de densité, il y a plus d'action, il peut y avoir plus de dépassement. C'est peut-être pas là où c'est approprié d'être trop dans sa bulle. Par contre, quand on est lancé pour plusieurs heures, ben, c'est un bon soutien moral, là, tu sais, comme tu l'as décrit, toi tu l'utilises en backup, il y en a d'autres qui sont plus constants là-dedans. On aime peut-être plus être dans notre bulle. À l'écoute de son corps, ou juste pour avoir un petit boost, des fois, là, on veut un peu de rock ou un peu de techno, puis là, oups, ça nous relance, tu sais, ça nous change les idées négatives, peut-être. Fait qu'on,
C'est vrai.
on est dans cette même logique-là. Puis, il y en a qui nous disent, tu sais, quand je parle d'évolution en intro, ah, les écouteurs à résonance osseuse, tu sais, c'est des écouteurs qui coupent moins du monde extérieur, donc ça peut être des bons trucs, là, des bonnes pratiques, tu sais. Donc, ça coupe moins du monde
Ouais.
extérieur, t'entends un peu plus, t'entends ta musique, mais aussi des bruits, pour lequel il faut des fois être alerte, c'est un coureur qui demande à passer ou un animal dans le bois, quelque chose comme ça. Fait que des fois, c'est des évolutions technologiques qui sont intéressantes à considérer pour notre
Ouais, c'est
pratique.
vrai que c'est ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui courent avec des écouteurs. Est-ce que en proportion, vous savez à peu près enfin, ouais, Joanie, je te vois hocher la tête, il y en a beaucoup de coureurs qui.
Oui, quand même beaucoup
Ouais.
sur les longues distances qui vont se mettre de la musique, surtout dans les moments les plus difficiles, là, je pense.
Ouais, c'est pour se
Tu
booster en
vois
fait.
souvent Courtney là, à la fin, Courtney de Walter à la fin de ses courses mettre ses écouteurs.
C'est un signe qu'elle a besoin d'un petit remonte moral.
Ouais.
Ouais.
Exact.
Ok. On a passé à peu près en revue quasiment toute la liste. Puis, en fait, il y a un dernier item encore une fois, pour les novices, ça peut être surprenant, mais il y a des items qui sont. Enfin, un item qui est interdit pour toutes les courses, ce sont les animaux. Ça, c'est parce que. Est-ce qu'il y aurait des gens qui viendraient. Mais peut-être plus des gens qui courent avec leur chien, qui sont habitués à courir avec leur chien, qui viendraient peut-être, qui seraient amenés à venir avec leur chien. C'est ça?
Effectivement, ben, de notre côté comme organisation, les demandes, c'est souvent des gens avec des chiens. Je sais pas s'il existe d'autres animaux de compagnie là, qui peuvent vous accompagner dans un trail. J'essaie de passer vite fait, je vois pas. Mais oui, c'est ça. Ben, il y a eu vraiment une augmentation de la popularité des courses canines. Je sais pas si j'ai le bon terme, mais beaucoup de gens s'entraînent avec leurs chiens, les harnais et tout ça. Je pense que c'est une spécialité en soi maintenant, et même les épreuves organisées spécifiquement pour ça. Nous, on avait vraiment un doute là, quant au fait de permettre les chiens. Bon, c'est parce que un animal reste un animal. Est-ce qu'il peut avoir, tu sais, au travers d'une foule, est-ce qu'il peut avoir des petits accidents comme des morsures ou des choses comme ça? Même affaire pour s'enfarger dans une laisse. Ça me semblait assez évident que c'était peut-être pas l'endroit le plus approprié, là, une course de trail pour avoir son animal. Mais en même temps, on comprend que les gens ont envie de courir en nature avec les animaux. Fait, on pense que c'est peut-être plus réservé pour les entraînements. Puis en même temps, si y a un chien qui fait une traction, ben là, il y a clairement un avantage technique là, à avoir un animal. Fait que là, ça devient encore plus questionnable. Le matériel obligatoire, là, le fait de l'obliger, le même matériel pour tout le monde, ben, il y a aussi le principe d'équité entre les coureurs, là, dans le fait de rendre une liste obligatoire pour tout le monde. Fait que, même affaire avec un chien, c'est s'il y a un avantage externe au coureur, ben là, c'est. Ça devient moins approprié, ça devient inégal pour les autres participants.
Moi, je pensais que c'était plus par rapport au sentier, puis à la faune autour, en fait, qu'on essayait d'éviter. Tu sais, il y a certains sentiers qui sont interdits, par exemple, aux chiens. Donc, je pensais que c'était plus pour ça que vous les aviez interdits, que c'était peut-être une demande de la
Ouais,
CEPAC sur les bouts de sentier.
tout à fait. Il y a aussi cet élément-là, peut-être plus spécifique à la CEPAC, parce que sur la traversée de Charlevoix, en général, les gens ont, à moins qu'il y ait certains secteurs spécifiques, mais les animaux sont autorisés. Mais oui, effectivement, on traverse des territoires qui n'ont pas la même gestion, puis un respect de la faune aussi.
Ok. Donc, toute cette liste-là, en fait, tout ce matériel-là, en fait, qui est, quand on parle du matériel obligatoire, est-ce que c'est des contrôles que vous allez faire lors de la remise des dossards? Est-ce que tout le matériel est contrôlé lorsque le coureur vient récupérer son dossard?
Oui, ben c'est ça. Pour être cohérent dans notre approche, effectivement, on fait des validations, des vérifications. Fait à la remise des dossards, que ce soit avant l'événement ou durant le week-end, les jours précédant les épreuves, oui, effectivement, on demande une vérification du matériel obligatoire. C'est surtout pour les longues distances. Puis moi, j'aime ça, ce moment-là, parce que c'est pas une approche où on veut jouer à la police avec les coureurs. Là, on n'est tellement pas là-dedans. Par contre, on veut que ce soit respecté pour les avantages qu'on a nommés là, précédemment. Mais la vérification du matériel obligatoire, c'est un deadline. Et des fois, on aime ça, les deadlines. OK, il faut que mon matériel soit prêt pour tel jour si je veux avoir mon dossard. C'est aussi une occasion d'échange avec les participants. Il y a des gens qui sont super habitués, ça va bien. Ils ont fait les épreuves plusieurs fois ou d'autres épreuves au Québec ou ailleurs. Il y a des gens pour qui c'est la première fois. Fait que c'est juste de regarder, des gens un peu plus d'expérience qui regardent ton matériel. Ben, c'est une occasion de se donner des trucs au-delà du contrôle. C'est ta veste, tu pensais à ça. Oh, tel équipement, tu sais, nanana. Valider, tu sais, des fois aussi la qualité de la lampe frontale. Moi, je trouve ça tellement important, là. Tu peux pas courir avec une lampe frontale premier prix quand tu fais une épreuve de trail où tu vas passer plusieurs heures de nuit, là. C'est vraiment pas une bonne idée. Fait que, tu sais, c'est aussi une occasion de sensibiliser les coureurs puis d'avoir un moment d'échange avec eux. Puis, ben, durant les parcours, il y a des contrôles aléatoires aussi qui se font pour les distances. Fait qu'on s'assure que les athlètes comprennent que c'est pas juste de l'avoir pour ton dossard, mais c'est de le traîner durant l'entièreté du parcours jusqu'à la fin pour leur sécurité.
Puis vous, c'est vraiment un choix aussi que vous avez fait, hein, de l'organisation de l'événement, d'avoir une posture où vraiment vous mettez en avant tout ce matériel-là. Puis on se rappelle une année où il y avait eu pas mal de contrôles. Et je me rappelle plus en quelle année c'était. Je l'ai plus. Je me rappelle, j'y étais la course là, mais je me rappelle plus quelle année c'était où il y avait plusieurs des gens qui étaient en tête de course qui avaient été disqualifiés parce que lors des contrôles inopinés, il leur manquait un ou deux items. Donc
ouais,
vous avez vraiment voulu.
C'est le bout de plate, là, en bon français, comme on peut dire. C'est que l'appliquer ces règlements pour s'assurer. C'est en 2019, là, cette année-là, où on avait effectivement eu des têtes de course qui avaient été, même des gagnants qui avaient été disqualifiés. Puis ça, honnêtement, moi, j'étais pas à la direction de course, j'y étais comme participant, mais bon, je connaissais un peu l'organisation. Puis ça a été un moment un peu crève-cœur parce que, c'est dur d'appliquer des sanctions sur des athlètes qui ont, même s'il n'y avait pas un item, c'est eux qui ont gagné, qui ont réussi leur course, sont super fiers, tu sais. Fait que oui, c'était un peu crève-cœur, mais en même temps, tu sais, avec un peu de recul, je trouve que c'est l'année où le message s'est vraiment passé au sein de la communauté. C'est comme un mini-scandale, mais en même temps, c'est le mot se passe, puis OK, le matériel obligatoire, les gens, l'organisation prend ça à cœur, ça nous permet d'en parler, de sensibiliser les gens. Fait que je pense que ça a été un peu un tournant, là, dans cette comme approche, comme culture organisationnelle, de fait, ben, on a des règlements, on va les appliquer. Et on ne saura jamais combien de situations d'urgence on aura pu sauver parce qu'on demande le matériel obligatoire, mais on pense que ça va dans le bon sens, c'est pour la sécurité des athlètes.
Oui, puis comme tu dis, je pense que les athlètes aussi évoluent puis comprennent. Comprennent mieux aussi tout ça, parce que ben, moi, quand je faisais un peu des recherches pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve des fois certains articles de gens qui critiquent un petit peu, ben, pourquoi il faut mettre ci, pourquoi il faut mettre ça, mais les articles sont quand même assez plus de 2017, où tu vois, ça remonte, donc je pense que ça rentre aussi un peu dans les esprits de se dire que ça vaut peut-être la peine de prendre un pantalon en plus, puis de pas se retrouver transit froid au fond du bois, quoi. Donc, effectivement. Est-ce que vous, en tant qu'organisation, vous avez, en termes d'assurance, mettons, est-ce que vous avez des obligations, en fait, par rapport à cette liste de matériel, ou ça rentre pas du tout
Non, mais on n'a pas des... Tu sais, le trail, ça reste un sport qui se structure beaucoup, là, maintenant, mais on est un peu quand même dans un sport, je dirais pas marginal, alternatif, ça, c'est de plus en plus populaire, mais la naissance des organisations de course, c'est faite sans véritable encadrement externe. Fait que je pense qu'on a une responsabilité de manière plus générale, comme n'importe quelle organisation de course, de faire le nécessaire pour encadrer la sécurité de nos participants. Et on n'a pas un assureur qui va demander d'avoir tel ou tel item, mais il faut toujours réfléchir, bon, dans la perspective où il arrive un pépin, on retrace le fil des événements, quel est notre, t'sais, on a clairement une responsabilité face aux coureurs, on leur propose un parcours dans le bois en pleine nature, de nuit, dans une période de l'année où ça peut changer au niveau météo, etc. Fait qu'il faut faire nos devoirs. Fait qu'on fait nos devoirs comme organisation, mais aussi avec, en embauchant une équipe médicale, parce que c'est ces montagnes d'histoire, on travaille avec ces professionnels-là. Puis il faut couvrir, t'sais, avec entre autres un plan de sécurité, il faut couvrir tous les aspects de sécurité des coureurs. Le matériel obligatoire, ben, ça fait partie des éléments qu'il faut mettre en place. Mais c'est intéressant comme question parce que le trail, c'est pas un sport où il y avait vraiment quelqu'un pour te dire voici comment on organise ça du trail. T'sais, déjà la course à pied, il y a plusieurs dizaines d'années que ça existe, mais le trail, c'est quand même une bébite qui est assez nouvelle, qui prend en popularité vraiment rapidement. C'est la courbe de croissance, c'est vraiment exponentielle en ce moment. Donc, faut s'organiser pour gérer cette croissance-là de manière sécuritaire.
Puis t'as les gens qui est habitués à aller en montagne ou à faire plus de la randonnée de longue distance, qui eux étaient habitués à avoir toujours leur couverture de survie ou à remplir leur sac avec la petite trousse de secours et ça. Puis t'as des gens qui viennent d'autres secteurs qui n'ont pas forcément fait ça et qui eux n'ont pas encore toute cette connaissance-là. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de les encadrer. Mais en même temps,
C'est clair.
quand je t'écoute, je pense je vous entends, puis je me dis c'est aussi important de responsabiliser les coureurs, puis de leur dire il faut aller lire le règlement, il faut s'informer. Maintenant, on a de la chance d'avoir accès à plein plein de sources d'infos, à plein de balados, à plein de choses aussi pour aller voir tout ce que les autres coureurs font, mettre dans leur sac. Les conseils de Joanie avec le petit tableau Excel, là, je pense que ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd, là, mais je pense que c'est des très bons conseils pour tout le monde.
Ouais, puis souvent les gens font le tremplin de la route vers le trail. Puis la route, là, c'est totalement un autre monde.
Oui.
C'est presque choquant de traîner son gobelet avec soi parce que c'est encombrant, là, tellement on est dans de l'épurée. Fait que t'sais, entre la route et la trail, les athlètes ont des attentes de performance. Pour eux, c'est associé avec le fait d'être léger, d'être light. Fait que là, on a vraiment un changement de paradigme à faire. Puis c'est pour ça qu'on fait des vérifications, des contrôles et tout ça.
Ok. Bon, ben merci en tout cas à vous deux, c'était très instructif. Merci pour tes bons conseils, Joanie, parce que c'était vraiment... moi j'ai beaucoup aimé le tableau Excel, là, j'arrête pas de le dire, mais je trouve bien aussi de voir que quelqu'un qui est quand même une coureuse, qui est plus dans les têtes de course, prévoit aussi le cas où ça se passe pas bien et que tu puisses courir plus doucement et plus lentement. Donc c'est, je pense que c'est vraiment intéressant. Tout le monde doit en prendre de la graine, comme on dit. Ben alors, merci beaucoup à tous les deux. Puis, ben je vous souhaite une bonne continuation, bonne préparation, Joanie, pour le 125 et tous tes autres projets. Et puis, à bientôt.
Merci.
Merci à tous les deux.
Merci.
Bye bye.
Merci, merci Joanie. Au revoir.
Bye.
Vous venez d'écouter Je suis Lou, le podcast de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre un avis et des étoiles sur votre appli de podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je suis Lou est une production d'événements Arikana. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'Ultra Trail Arikana du Canada sur le site web arikana.info. À bientôt!